Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà salués. Je crois qu'il est important, régulièrement, au minimum de temps en temps, de se pencher sur l'enseignement que Jésus a porté dans l'Évangile sur la prière. Vous avez certainement entendu dire déjà que la prière est très importante. Parfois, quand j'entends des chrétiens ou même des pasteurs prêcher, j'ai l'impression que la prière est la chose la plus importante de toutes dans la vie spirituelle. J'ai juste un petit bémol à apporter. C'est vrai que l'apôtre Paul a dit « Priez sans cesse ». Mais, je dirais, le psalmiste David a dit lui aussi autre chose. Il a dit « Je médite la parole de Dieu jour et nuit ». Je ne voudrais pas cet après-midi faire un contraste ou une opposition entre ce qui est important, savoir lire et méditer la parole de Dieu, voire le faire jour et nuit, si c'est possible, ou prier sans cesse. Il est vrai que ces deux choses-là, ces deux activités sont essentielles dans la vie du chrétien. Je pense qu'il faut d'abord écouter la voix de Dieu, écouter Dieu pour mieux prier. Et je pense qu'il faut méditer la parole de Dieu autant que nous le pouvons. Il n'est pas dit que nous ne sommes pas obligés de la méditer tout le temps, mais de l'avoir présente devant nous en permanence, oui. Lire la parole de Dieu, l'étudier, la méditer, afin qu'elle devienne une partie intégrante de notre vie, c'est important, c'est capital. Et prier Dieu, c'est important aussi. Jésus a enseigné à ses disciples ce jour-là à prier parce qu'ils lui ont demandé. Les disciples écoutaient Dieu, écoutaient Jésus tous les jours. Je crois que c'est dans l'unité de ces deux choses, de ces deux activités, que réside le secret d'une vie chrétienne fructueuse, efficace, qui nous aide à nous épanouir devant Dieu et devant les hommes. Je crois que ce que Jésus a enseigné ce jour-là à ses disciples est très important aussi. Nous verrons tout à l'heure pourquoi cet enseignement est important. Jésus, c'est mon premier point, Jésus priait souvent. C'est sans doute aussi pour cela que ses disciples lui ont demandé de les enseigner à prier. Jésus priait souvent et comme quelqu'un me l'a dit un jour alors que j'avais enseigné sur Jésus qui priait, peut-être pas exactement ce sermon-là puisque ça remonte à 30 ans peut-être en arrière, mais j'avais prêché ce jour-là sur la prière et sur Jésus qui priait. Alors un brave frère en Christ est venu me voir à la fin du culte et m'a dit « Philippe, mais pourquoi Jésus avait-il besoin de prier puisqu'il était Dieu ?» Alors je lui ai répondu ceci, pourquoi est-ce qu'un fils a besoin de parler avec son père, même s'il est toujours à la maison avec lui? J'étais content d'avoir eu cette inspiration qui pouvait m'aider à répondre. Mais c'est vrai qu'il y a là une grande vérité, Jésus était rempli du Saint-Esprit depuis le début de son ministère, depuis l'âge d'environ 30 ans, quand il a commencé son ministère public. La Bible dit, l'évangile de Luc, enfin les évangiles le disent, Jésus a été rempli du Saint-Esprit, et nous pouvons en conclure facilement, pour pouvoir exercer son ministère d'une manière efficace. Mais Jésus avait besoin de prier, c'est pas qu'il avait besoin en tant que tel, mais Jésus priait comme un fils parle avec son père, tout simplement parce qu'il est son fils et parce que le père est son père. La communication est une chose naturelle au sein d'une même famille. Et quand il y a un rapport de père à enfant ou de mère à fille ou de mère à fils ou de père à fille, etc., la communication est importante parce qu'elle fait partie de la vie. La communication fait partie de la vie et Jésus a pratiqué la prière parce que Dieu était son Père et parce qu'il avait besoin de cette communion constante avec lui pour pouvoir dire plus tard, et c'est pour cela qu'il l'a dit, « Je fais toujours ce que le Père me demande. » Sous-entendu, « Je lui obéis toujours. » L'évangéliste Luc, dans son évangile, donc, nous cite souvent des textes ou écrit souvent que Jésus priait. Je résume simplement quelques textes que j'ai lus et dans lesquels il nous est montré, peut-être plus que dans les autres évangiles, que Jésus priait souvent. Je lis dans Luc 3, 21, que pendant que le peuple se faisait baptiser, Jésus est venu lui aussi se faire baptiser. Et il est dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et il vint du ciel une voix qui dit, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Jésus priait pendant qu'il était baptisé. Ce n'était pas une expérience qu'il a simplement subie ou acceptée. Il nous est dit qu'il a été baptisé non pas pour le pardon de ses péchés, bien évidemment, mais pour pouvoir obéir, pour pouvoir s'humilier, pour pouvoir suivre le chemin de tous les hommes. Même s'il n'avait pas besoin d'être baptisé, il voulait montrer que cet acte était important pour les hommes. Alors il est dit, pendant qu'il était en train de se faire baptiser, il priait. Il était en communion avec son Père. Un peu plus loin, dans Luc 4, 42, je lis ceci. Les disciples étaient avec Jésus, ils dormaient la nuit, et il nous est dit, dès que le jour parut, Jésus sortit et alla dans un lieu désert. Et l'évangéliste Marc ajoute à ce même texte qu'il cite aussi, il se retira dans un lieu désert où il se mit à prier. Un peu plus loin, nous lisons que, c'est un peu le même texte, il est dit que la renommée de Jésus se répandait un peu partout, les foules étaient nombreuses pour l'entendre, beaucoup étaient guéris de leur maladie, et il nous est dit, lui Jésus se retirait dans les endroits déserts et priait. L'évangéliste de Luc nous cite encore d'autres textes. Un peu plus loin, nous lisons, « En ce temps-là, Jésus, c'est dans Luc 6, 12, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Là, nous voyons Jésus dans un moment plus particulier encore. On pourrait dire dans un moment où il doit prendre une très grande décision, le choix des 12 disciples qui vont devenir apôtres est important. La Bible, l'Évangile nous montre que Jésus était suivi par beaucoup de disciples, plus que 12. Souvent on se dit les 12 disciples, mais Jésus avait beaucoup plus de disciples. La preuve, c'est qu'un jour il nous est dit qu'il en a envoyé 70 pour pouvoir prêcher l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons et annoncer le royaume de Dieu. Le jour de la Pentecôte, il nous est dit qu'ils étaient 120 environ. Cela montre bien qu'il n'y avait pas que 12 disciples, puisque le jour de la Pentecôte, ils en avaient même perdu un, qui a été remplacé ensuite, au tirage au sort, enfin par la prière aussi. Mais ils n'étaient pas 12 seulement, ils n'étaient pas 70 seulement, ils étaient au moins 120, en tout cas dans les environs de Jérusalem, peut-être qu'il y avait même des disciples ailleurs. On peut penser par exemple que des gens comme Marthe et Marie, sa sœur, étaient comme des disciples de Jésus, pourquoi pas, et bien d'autres encore. Un peu plus loin, c'est le dernier texte en dehors de celui qui a été lu tout à l'heure, il nous est dit que Jésus est monté encore une fois avec Pierre, Jean et Jacques sur la montagne pour prier. C'est l'épisode que l'on connaît sous le nom de épisode de la transfiguration de Jésus, de la transformation, métamorphose, pour reprendre le mot original, de Jésus pendant qu'il priait et qu'il conversait avec Moïse et Élie. Alors nous arrivons donc à notre texte, ce texte qui commence par une demande des disciples de Jésus. « Seigneur, nous aimerions que tu nous apprennes à prier. » C'est important de savoir prier. Il y a des tas de gens qui prient en toutes circonstances. Je me souviens un jour que mon père et ma mère se rendaient de Marseille, nous habitions dans le nord de la France, l'ouest de la France, mais ils avaient pris le train jusqu'à Marseille, et de Marseille, ils ont pris le bateau pour aller à Alger. Je n'y avais pas les avions aussi, enfin les avions coûtaient cher à l'époque, mes parents n'avaient pas trop d'argent, et le bateau coûtait moins cher. Ça mettait plus de temps, bien évidemment. Et ils avaient pris le bateau à Marseille pour aller à Alger, assister au mariage de mon frère aîné, de leur fils aîné. Et tout s'était bien passé, le mariage aussi, bien sûr. Et quand ils sont revenus, ça s'est moins bien passé. La traversée de Alger à Marseille s'est passée beaucoup moins bien. Il y a eu une terrible tempête à la hauteur des îles Baléares, donc au milieu de la traversée. Et tout le monde est resté dans sa cabine, sauf mon père et une femme qui ont décidé de monter sur le pont pour voir la tempête. Je précise quand même que mon père aimait beaucoup la mer, son père était marin-pêcheur et avait été le seul survivant d'un naufrage. Alors peut-être que mon père se disait « je serai le seul survivant », ou plutôt, je crois que c'était parce qu'il aimait voir la tempête, il aimait voir la mer déchaînée. Et il nous a raconté plus tard que quand il est monté sur le pont en pleine nuit, en plus la tempête en pleine nuit, c'était encore plus impressionnant, il a dit « nous n'étions que deux sur le pont, il y avait cette femme et moi ». Moi, je regardais, en m'attachant à la balustrade, je regardais la tempête, ces vagues de 7-8 mètres de haut. Et la femme était accrochée au mât, à genoux, et elle priait. Elle priait parce qu'elle était désespérée. Mon père, lui, n'était pas désespéré parce qu'il connaissait le maître, celui qui contrôle les éléments. D'ailleurs, le bateau n'a pas fait naufrage. Mais je me souviens toujours de cette citation de mon père qui disait qu'il n'était que deux, une femme qui priait, parce qu'il y a des gens qui prient quand ils sont dans la détresse. Il y a des gens qui prient quand une catastrophe est en train de se dérouler. Les disciples ne voulaient pas seulement prier quand tout allait mal. Vous savez qu'ils ont connu aussi une tempête sur le lac de Galilée. Ici, les disciples veulent apprendre à prier parce que, probablement d'abord, parce que Jean a enseigné à ses disciples à prier. Nous ne savons pas ce que Jean leur a dit. Nous ne savons pas ce que Jean-Baptiste leur a dit. Nous ne savons pas comment il les a enseignés à prier. Mais nous savons que les disciples, certainement, ont vu Jésus prier, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, il priait souvent. Et le texte que nous étudions cet après-midi, pendant quelques minutes, c'est un texte qui vient après tous les autres, où il nous est dit que Jésus priait le soir, Jésus priait la nuit, Jésus priait le matin, à l'aube, Jésus se retirait pour prier, Jésus priait avant de prendre toutes ces grandes décisions. À la fin, les disciples ont dit « Seigneur, nous voudrions que tu nous apprennes à prier ». Alors, Jésus va enseigner trois choses, je vais les résumer avec l'aide de Dieu. La première chose, il leur a enseigné une prière modèle. En tout cas, c'est comme cela qu'on la considère souvent. Alors, je vais passer rapidement sur les différentes parties de cette prière. Jésus n'a pas dit que chaque fois que nous prions, nous devons prier cette prière. Jésus n'a pas dit, par exemple, comme s'il avait fondé une religion, il l'aurait peut-être dit, « Vous réciterez 10 fois cette prière par jour à tel ou tel moment. » Non, Jésus n'a pas dit cela. Il a simplement commencé son enseignement en disant « Quand vous priez, dites. » Par exemple, moi j'ajoute par exemple, parce que nous voyons que lorsqu'ils priaient, les apôtres de Jésus, dans le livre des Actes des apôtres, ne priaient pas toujours cette prière. Ils priaient selon les circonstances. Par exemple, le jour où ils ont été, Pierre et Jean, ils ont dû comparaître devant le tribunal religieux des Juifs, ils sont revenus après chez eux, ils ont retrouvé les autres disciples, et ils sont rentrés dans la chambre haute, et ils ont prié tous ensemble, mais la Bible ne dit pas, le livre des Actes des apôtres ne dit pas, ils ont prié « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié ». Non ! Ils ont dit « Seigneur, tu as entendu leurs menaces, alors Seigneur, étends ta main, afin que nous ayons de l'assurance pour prêcher ta parole, et qu'il se produise des signes, des prodiges et des miracles ». Cela montre bien que la prière que Jésus a enseignée ce jour-là est une prière dont il a voulu faire sortir quelques principes. La première chose que Jésus dit, c'est que ton nom, il faut dire que ton nom soit sanctifié. Cela nous enseigne que le nom de Dieu est un nom qui doit être mis à part, pris en considération. Nous ne devons pas prononcer le nom de Dieu n'importe quand et n'importe où. Nous devons respecter le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Le nom de Dieu est mis à part. Il a une très grande valeur parce qu'il représente la personne la plus extraordinaire, la plus puissante, la meilleure qui soit et celle dont nous sommes devenus en Jésus-Christ les enfants. Vous savez que quand nous portons maintenant le nom de Dieu, nous sommes ses enfants. Quand on est les enfants de quelqu'un, on porte son nom. Je me souviens, il y a des années, peut-être 30 ans de cela, dans nos pays voisins, l'Italie, il y avait un homme qui était ministre du gouvernement. Bon, rien d'extraordinaire. Je crois qu'il était ministre de l'Intérieur même. Et puis un jour, en tant que ministre de l'Intérieur, il avait donné des consignes. Il y avait à l'époque des groupes dits terroristes dans le pays. Et il avait donné des ordres pour que l'on essaye d'arrêter tous ceux qui faisaient partie de ces groupes. Et un jour, l'un de ses adjoints est venu le voir et lui a dit « Monsieur le ministre, j'ai une nouvelle pour vous. Nous avons arrêté plusieurs terroristes. » Alors le ministre a dit « Félicitations. Très très bien. » Et alors l'adjoint lui a dit « Monsieur le ministre, il y a un petit problème. » Il a dit « Quel est le problème ? Arrêter des terroristes, c'est un problème ? Quel est le problème ?» Il a dit « C'est le nom que porte l'un des jeunes terroristes que nous avons arrêté. » Alors le ministre a dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? Monsieur le ministre, l'un des terroristes porte votre nom. C'est votre fils. » Et alors le ministre a été effondré. Il a découvert ce jour-là que l'un des terroristes les plus recherchés du pays, il ne le savait pas, était son propre fils. Il ne savait pas que son fils avait des activités qui n'étaient pas tout à fait dignes d'un fils de ministre. Il était un terroriste lui-même. Alors le père a dit, « Bon, si vous êtes sûr de votre fait, arrêtez, emmenez-le en prison et il sera jugé comme tous les autres. » Porter un nom nous donne des responsabilités. Et porter le nom d'enfant de Dieu nous enseigne une certaine responsabilité. Pourquoi Jésus dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. » Le nom de Dieu, qui est notre Père, nous devons le mettre à part et le révérer. « Que ton règne vienne », c'est la deuxième parole, « que ton règne vienne » signifie que nous devons tout faire ce qui est dans notre possible pour que Dieu règne dans notre vie. Et ensuite, nous devons contribuer à étendre son royaume, son règne, partout autour de nous. Comment pouvons-nous le faire ? Simplement en vivant en vrais chrétiens, en vivant comme de véritables enfants de Dieu. Puisque Dieu règne dans nos vies, et s'il règne dans nos vies, nous apprendrons ainsi aux autres, nous enseignerons ainsi aux autres ce que c'est que le royaume de Dieu. Et vous savez que quand Dieu règne dans une vie, quand Dieu règne dans nos vies, nous ne pouvons qu'attirer les autres vers Dieu. Ensuite, il est dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Ici, bien sûr, nous avons l'enseignement que Jésus pourvoit à tous nos besoins. Dans Philippiens 4, 19, l'apôtre Paul disait « Mon Dieu pourvoira », et il est même dit plus précisément dans le texte original de la Bible, « Mon Dieu comblera tous vos besoins. Il satisfera vos besoins jusqu'à la plénitude. Vous ne manquerez de rien. » Et ce texte nous montre que Dieu pourra pourvoir et Dieu veut pourvoir à tous nos besoins les plus légitimes. Un peu plus loin, Jésus dit, dites ceci quand vous priez, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une phrase importante, parce qu'elle n'est pas toujours pratiquée par tous. Pardonne-nous nos péchés, Jésus dit, parce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dans un autre texte, Jésus ajoute, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Il y a toujours dans l'Évangile, dans l'enseignement de Jésus, un lien très étroit entre ce que nous disons et ce que nous faisons, entre l'enseignement de la Bible et notre mise en pratique, entre ce que nous demandons dans nos prières et ce que nous faisons aux autres dans la vie de tous les jours. Et puis Jésus termine par cette parole, « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Nous ne devons pas oublier que pour mieux résister au mal, nous devons rester attachés à Dieu et nous ne devons pas oublier de prier pour pouvoir être plus forts face à la tentation en veillant, afin de ne pas pécher. J'aimerais citer encore deux choses avant de terminer. Jésus, après avoir donné cet enseignement, après avoir donné ce modèle de prière que l'on peut suivre, sans le copier automatiquement en toutes circonstances, Jésus raconte une histoire qui est la suivante. Un ami qui reçoit de la visite en plein milieu de la nuit, à minuit, n'a pas de pain, n'a pas de nourriture pour donner à cet ami qui arrive à l'improviste. Alors il va frapper à la porte d'un autre de ses amis qui habite tout près pour lui demander du pain. Et l'autre ami dit « Mais je dors ». Enfin, il ne dormait plus puisqu'il répond. Mais il dit « Ma femme, mes enfants dorment et je ne peux pas les réveiller pour aller prendre du pain ». Et l'ami insiste. Et Jésus dit « Ce n'est pas parce que c'est son ami, mais c'est parce qu'il insiste ». C'est à cause de son importunité. Et le mot « importunité » veut dire aussi manque de retenue, manque de scrupule, manque de pudeur. C'est un mot très fort dans l'Évangile. Jésus veut enseigner une première chose. Et nous verrons en conclusion dans quelques instants que Jésus enseigne une deuxième chose, enfin une deuxième et une troisième, si la première c'est la prière modèle. Jésus dit ceci, « Si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, vous devez insister, vous devez persévérer. » Ça ne veut pas dire, nous allons voir dans quelques instants pourquoi, ça ne veut pas dire que nous pouvons demander tout ce que nous voulons. D'abord, nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant ne demande pas tout ce qu'il veut à son père. Enfin, il peut essayer. Je me souviens quand ma plus jeune fille, qui a maintenant un peu plus de 30 ans, avait 4-5 ans, elle avait commencé à prendre une certaine habitude. Elle me demandait souvent des choses. Alors quand je pouvais, quand je jugeais que c'était raisonnable, je lui accordais. Et puis un jour, elle a commencé à me dire « Papa, j'aimerais te demander quelque chose, mais je suis sûr que tu ne voudras pas. » Alors la première fois, je lui ai dit « Demande toujours. » Et puis une autre fois, plus tard, quelques temps plus tard, elle m'a redit la même chose. Elle m'a dit « Papa, je voudrais te demander quelque chose, mais je suis sûr que tu vas dire non. » Je lui dis, mais écoute, si tu es vraiment sûr que je vais dire non, ce n'est pas la peine de demander. Ce sera plus simple comme cela. Vous savez, nous ne pouvons pas demander tout ce que nous voulons. Ou plutôt, nous pouvons le faire, mais Dieu ne nous accordera pas forcément tout. Peut-être que vous auriez envie, enfin, je ne vous juge pas, hein, mais peut-être qu'il peut nous arriver parfois de dire, et si le Seigneur me permettait d'avoir une très belle voiture ? Bon, il faut savoir d'abord qu'une très belle voiture, ça coûte cher. Ça peut consommer beaucoup d'essence, et quand il y a des réparations à faire, ça coûte très cher. Peut-être nous aurions envie de dire, Seigneur, fais que je puisse avoir une très belle maison plus tard. Alors peut-être que le Seigneur nous donnerait ce conseil, alors travaille beaucoup. Essaye de trouver un métier qui fait gagner beaucoup d'argent. Ce ne sont pas de ces choses dont Jésus parle. Jésus parle de nos besoins les plus fondamentaux. Et Jésus dit, si vous voulez obtenir ce que je peux vous donner, alors demandez, c'est dit un peu plus loin dans le texte, au verset 9, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dieu veut d'abord que nous nous rappelions tout le temps que nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Et un Père normal veut le bien de ses enfants. Jésus a promis dans bien des textes de pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus. Jésus parle bien sûr des besoins légitimes. Et la raison pour laquelle nous pouvons l'affirmer, je termine par cela, ce sont les deux derniers versets de ce texte, où il est dit au verset 13, c'est le dernier verset du texte, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à tous ceux qui le lui demandent ? » Comme c'est étrange de voir que, alors que ses disciples lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier », Jésus a d'abord donné un premier conseil, à savoir une prière qui sert de modèle, que l'on peut suivre sans prendre le mot à mot. Ensuite, il leur dit « Si vous voulez vraiment voir vos prières exaucées, parce que c'était cela leur désir quand même, eh bien, Jésus dit, insistez, persévérez. Ne demandez pas juste une fois, insistez, persévérez. Parce que Dieu veut que nous apprenions à persévérer pour avoir plus de force en lui. Et la dernière chose que Jésus dit, après avoir dit tout cela, il dit, il y a une chose qui est plus importante que tout. Vous voulez savoir comment prier ? Tout ce que je vous ai dit, la prière modèle, l'insistance, la persévérance est important. Il y a une chose encore qui est plus importante que tout, c'est celle par laquelle il termine, dit « Si vous voulez prier, persévérez, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est la présence même de Dieu dans notre vie. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui a donné à Jésus le succès dans ses prières, la réponse à ses prières. Pourquoi est-ce que Jésus était toujours exaucé quand il priait pour un malade, quand il priait pour quelqu'un, quand il demandait quelque chose à son Père ? Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, et étant rempli du Saint-Esprit, il se laissait conduire par Dieu dans toute sa vie. Et il a dit un jour, « Moi, je fais toujours ce que mon Père demande. » Et c'est pourquoi, même devant le tombeau de Lazare, il a pu dire, « Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. » Parce que Jésus faisait toujours et cherchait toujours à faire la volonté de son Père. Et il le faisait parce qu'il avait ce Saint-Esprit qui vivait vraiment en lui et qui lui permettait de se comporter de cette manière et de prier avec efficacité. Alors que Dieu puisse nous bénir et nous aider avec son Esprit et par son Saint-Esprit, à recevoir derrière ce Saint-Esprit et ensuite par ce Saint-Esprit à pouvoir le prier avec efficacité, que son nom soit béni.